Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, vous m'avez dit, j'ai reçu plein de messages. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord, c'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va évidemment parler de tous les sujets d'actualité, que ce soit sur l'économie, sur la finance, sur les placements. On va vous expliquer ce qui s'est passé, et on va vous expliquer ce qui va se passer. C'est quand même pas mal, hein. Et en plus, j'ai une quatrième très bonne nouvelle. On a tout simplement explosé les records historiques d'audience en live et en podcast de l'émission. Donc je voudrais vous remercier évidemment les invités qui sont là aujourd'hui, mais tous les invités qui viennent chaque semaine, parce que c'est grâce à eux et puis parce que c'est grâce à vous. Alors continuez à nous écouter, à nous regarder en replay, en podcast. Comme ça, on fera un nouveau record le mois prochain. Au sommaire aujourd'hui, un mot, les élections américaines, évidemment. Une question, ça y est, est-ce que les banques centrales vont pivoter? Un chiffre? On parle rarement de Bitcoin, de crypto ici. Il y a des émissions pour ça avec des spécialistes. Je suis pas un spécialiste du sujet. D'abord, je suis un boomer, donc je peux pas être un spécialiste du sujet. Mais il y a quand même un chiffre qui me frappe. C'est 32 milliards de dollars. C'était la valorisation de la plateforme de crypto FTX en janvier 2022. On est toujours en 2022. Elle vient de faire faillite, vous le savez, en deuxième partie de l'émission. On va se poser la question de savoir où vont les marchés. Enfin, je vais leur poser la question. Moi, je vais pas y répondre. La question d'argent, c'est est-il temps de revenir sur les valeurs de croissance, les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou à vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, évidemment, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Je ne sais pas si je dois être content ou triste. Parce qu'on ne va plus la voir pendant quelques mois. Content pour elle, parce que c'est pour un bel événement. Félicitations à Nabuata.
Merci.
Je le dis, voilà, toute la France est au courant.
C'est vrai.
Vous nous manquez déjà. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche macroéconomique chez Alliance Trade. Bon, dès que c'est fini, vous revenez, hein.
Bien sûr, en plus vite.
Il n'a qu'une devise, small is beautiful, ou hors de small, point de salut. Et ça lui réussit, puisqu'il affiche une performance annualisée de 13%. C'est bien ça. Depuis 30 ans, William Higgins, vous êtes président d'Indépendance et Expansion. Ça marche bien ?
Ça marche bien.
L'année est bonne ?
Enfin, on ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais elle aurait pu être pire.
Elle est moins mauvaise que beaucoup d'entre vous. Avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et c'est un des thèmes de l'émission, eh ben, tant en politique qu'en économique, sur les marchés, il nous fallait un phare. Il fallait de la lumière. Dans ce brouillard, eh bien nous, notre phare, c'est notre statue de la liberté, la nôtre, à personne d'autre. Virginie Robert, vous êtes présidente de Constance Associés, on est content de vous avoir comme toujours.
Très heureuse d'être avec vous.
Bon, n'ayons pas peur des mots, il est devenu tout simplement indispensable à C'est votre argent. Vous avez remarqué, il a pris la place d'Emmanuel Le Chypre. Alors, est-ce qu'Emmanuel va revenir ou est-ce qu'il va lui laisser sa place définitivement? L'économiste qui murmure à l'oreille des patrons, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Vous voulez lui piquer sa place?
Il faudra me trouver un animal totem. Après le panda, il faudra trouver quelque chose.
On va trouver, vous inquiétez pas, j'ai déjà des idées.
D'accord.
Allez, on commence tout de suite avec les élections américaines. Quelle démocratie étonnante quand même, hein. Born in the USA. On a à peine tous les résultats d'élections qui ont eu lieu il y a près de 2 semaines. C'est quand même assez étonnant. Ce qu'on sait maintenant, de façon certaine, c'est qu'il n'y a pas eu la vague républicaine qu'on attendait. Alors certes, ils ont, ça y est, la majorité à la Chambre des représentants, mais par contre, ils n'ont pas emporté le Sénat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Robert? D'abord, juste une petite réflexion, c'est étonnant quand même, d'une grande démocratie comme ça, avec un système électoral où on est encore en train d'attendre les résultats des élections, et où évidemment tous ceux qui ont perdu dans le camp Trump disent tous les résultats sont faux.
Évidemment, ça c'est le grand leitmotiv. Hein. Oui, c'est étonnant, mais c'est le fonctionnement du système. C'est vrai que tous les ans, enfin tous les 2 ans, finalement, entre les mid-term et les élections, on se dit c'est quand même assez insensé, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, on n'a pas eu cette marée républicaine, comme elle était un petit peu... Alors, ça, quelques enseignements...
Pas du tout, même.
Bon, pas du tout.
Bah oui,
Bon, c'est quand même... les sondages, comme toujours,
sont plantés.
Mais ça, on le sait, ça, c'est pas nouveau. Deux, je pense qu'il y a quand même certains sujets qui ont été très importants, notamment le droit à l'avortement, il ne faut quand même pas l'oublier. Ça fait du mal aux républicains.
Les médias américains disent tout simplement que ce sont les femmes
qui ont
permis l'avance des républicains.
Elles ont participé, c'est clair.
C'est très clair.
Mais je pense aussi que les hommes sont impliqués dans cette
réflexion. Oui,
dans
évidemment,
cette
non, mais il y a eu quand même cette mobilisation qui a été formidable.
Ensuite, j'allais dire, d'abord, traditionnellement, moi je dis toujours que les résultats des élections, enfin le pouvoir politique, alors c'est pas tellement vrai, c'est vrai sur les deux dernières années avec la crise Covid, parce que le poids de la politique budgétaire a été d'une telle importance.
Oui.
Et dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qu'on peut pas dire ça, mais traditionnellement, enfin moi en tant que gérante et évidemment tournée davantage vers les sociétés, c'est pas...
Ah vous, c'est presque un non-événement.
C'est presque un non-événement,
ah oui.
Mais quand même il faut, sur l'agenda politique, moi je pense que les républicains là, avec la Chambre des représentants, ne vont pas se gêner quand même pour aller de partir sur le chemin des investigations.
On a un système qui est bloqué quand même.
Voilà.
Il va rien se passer.
Exactement. Et sur l'agenda législatif, on pouvait s'attendre qu'avec les Républicains, on ait effectivement une politique budgétaire
un peu plus
restrictive, et moins de dépenses.
Oui.
Mais là, finalement, il va rien se passer.
C'est important pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale, ces élections.
Oui, c'est important. Et peut-être un point pour revenir sur le politique. Je crois que dans l'histoire américaine, il n'y a que trois présidents américains qui aient remporté les élections de mid-term. Et je crois que le dernier, ça devait être Bush. Le précédent, c'était Roosevelt, Bush en 2002. Mais au moment où ils étaient engagés, il y avait les Twin Towers qui venaient de tomber. Donc on voit bien que le fait qu'il n'y ait pas de raz-de-marée républicain est quand même un message
qui est un gros événement. Oui.
C'est vraiment un événement important.
Ouais, je suis d'accord.
Ajouté aussi à cela, vous avez vu que plusieurs milliardaires ont déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas qu'ils ne subventionneraient pas la campagne de Trump. Donc,
à commencer par Murdoch. Hein.
Ouais,
tout à fait. Donc avec tous ces médias. Hein.
Donc il y a quand même il y a des choses qui sont en train de se faire. Après sur la politique, venons sur l'économie, sur la politique budgétaire, celle-ci a déjà tourné kazakh en réalité. Et l'exemple type, c'est ce qui s'est passé avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, où on est déjà dans une situation où on retire de l'impulsion budgétaire là où jusqu'à présent. Et ça c'était vu évidemment pendant le Covid et avec le paroxysme qui était le plan de relance adopté en 2021, où là on injectait énormément d'argent. Là, les États-Unis sont en train de faire machine arrière et de retirer de l'impulsion budgétaire qui a jusqu'à présent été quand même un des facteurs premiers explicatifs de l'inflation qui est intervenue aux États-Unis.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, on va parler tout à l'heure du pivot des banques centrales, vous nous dites le pivot du gouvernement américain, il a déjà eu lieu. Oui. Et finalement, ce statu quo que Virginie nous décrit, hein, parce que ça va être un peu un standstill jusqu'à 2024, finalement, on va être dans une situation un peu d'attente.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
Et la clé sera plutôt du côté de la Banque centrale américaine.
Ouais, exactement.
Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier l'impasse budgétaire. On en aura, c'est sûr. La question, c'est quand ? Probablement au deuxième trimestre de l'année prochaine.
Oui, mais ce cirque-là, on le connaît, non ?
Du debt ceiling.
Oui,
c'est vrai que ça fait 80 fois qu'on augmente de debt ceiling, mais peut-être que cette fois-ci, ça risque d'être compliqué parce qu'économiquement, on sera dans un cycle compliqué. Donc, on est déjà proche de cette limite de 31,1 trillions de dollars qu'ils ont augmenté en fin d'année dernière. Mais là, avec le fait qu'on rentre dans une récession en début de 2023, même s'il est modéré, ça risque d'accélérer le processus puisqu'on aura moins de recettes. Après, effectivement, je pense que ils vont arriver à un accord, mais est-ce que ça va créer beaucoup de volatilité comme en 2011, c'est pas sûr. Et auquel cas, forcément, les taux vont augmenter, ils vont payer plus de charges d'intérêt. Donc voilà, ce sont des effets négatifs qu'on a déjà vus dans le passé. Donc ça peut être aussi compliqué, en fait, comme processus, au vu de cette division qu'on attendait et qui est moins forte.
Mais les résultats, justement, apaisent un peu ce sujet. Enfin, en tous les cas, ça va moins le contraindre, moins le porter. Effectivement, de la dette.
On peut se dire qu'on n'a pas de gouvernement pendant les deux ans qui viennent, ou peu, parce que ils vont se bloquer les uns les autres, et que c'est peut-être une très bonne nouvelle pour le système.
Il y a toujours les executive orders.
Oui, oui, bien sûr.
Toujours faire comme ça.
Mais comme disait Denis, on ne va pas s'attendre à des grands plans de soutien et grands plans de relance, c'est fini, ça, on a passé le cap.
Non, mais surtout que les circonstances économiques ne s'y prêtent pas. Et effectivement, comme le dit Anna, c'est plutôt une récession modérée et de toute façon qui est, dont le mouvement est dicté en priorité par la Banque Centrale. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, la main a changé, elle a pivoté, elle est désormais beaucoup plus du côté de la Fed.
C'est intéressant de se dire, en fait, ils vont être sur un déficit public proche de 7% du PIB. Donc vraiment, il y a l'austérité ou la consolidation budgétaire ou le manque de stimulus et puis le cycle qui fait que ça dérape vraiment. Donc,
Alors, attendez, on s'arrête là-dessus, c'est important. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'on n'en a rien à foutre de 7%?
Ce qui est compliqué, c'est que si vraiment la récession est plus forte qu'anticipée et qu'on voudrait faire un peu plus de stimulus, peut-être qu'ils vont faire 0,5 point de PIB.
C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, 7%, c'est pas important, mais on n'a plus de marge.
On n'a plus de marge.
On dit toujours qu'on n'a plus de marge, mais on retrouve toujours de la marge. C'est-à-dire qu'on va dire, maintenant,
tout dépend de ce que la Fed va faire. C'est plutôt ça. On revient à la Banque Centrale.
Mais pour l'instant,
justement, on va faire la transition, et c'est très bien, avec la question de la semaine qu'on est obligé de se poser. Les banques centrales sont-elles en train de pivoter? Il a suffi d'un chiffre d'inflation la semaine dernière, moins fort que prévu aux États-Unis, pour que tout le monde s'emballe et ne jure plus que par ce mot, le pivot. Le pivot, c'est-à-dire le changement de l'inflexion de la politique monétaire aux États-Unis d'abord, dans les autres zones économiques ensuite, car en Europe, on l'a vu cette semaine, la Grande-Bretagne, l'Italie affichent encore de nouveaux records d'inflation. Est-ce que l'inflation de Niferon est en train de ralentir ou pas? Ça, c'est quand même assez simple parce que je crois que vous qui êtes économiste comme Anna, vous regardez des éléments qui sont des éléments déjà connus et on sait déjà si l'inflation est en train de ralentir. Et est-ce que les banques centrales vont ralentir leur rythme de hausse de taux?
Oui, en fait, le pivot, avant de parler du pivot de la Banque Centrale, il faut parler du pivot de l'inflation. Voilà. Et le pivot de l'inflation, il a été franchi. Vous avez les prix à l'importation qui reculent, vous avez les prix de production. Donc,
Là, vous parlez que des
aux États-Unis. Aux États-Unis, pardon. Les prix de production, qui sont donc des prix qui sont en amont des prix à la consommation, ralentissent également. Et puis, plus fondamentalement, au-delà des indicateurs, il faut regarder les déterminants de l'inflation et ce qui a provoqué en réalité cette inflation. Donc, on l'a dit,
faut
la découper. Ça a été dans un premier temps les pénuries. Qui ont été très fortes en 2021, les pénuries maintenant elles sont derrière nous.
Donc ça c'est rattrapage post-Covid, c'est derrière nous?
Pour l'essentiel, aux États-Unis, oui. Quand on regarde les indicateurs d'appréciation, il n'y a plus de tension sur les délais de livraison. D'accord. Donc ça c'est derrière.
On le voit sur le fret maritime par exemple.
Les délais de livraison sont en baisse pour la première fois depuis 2015. D'accord. 2015-2016 aux États-Unis. Ouais. Ça c'est très très important.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire?
Et les frets, ils sont trois fois moins élevés qu'au début de l'année. Donc vraiment un baisse.
Ce que vous dites est très important, c'est-à-dire est-ce que les effets du rattrapage post-Covid, cette sorte de pénurie, circuit d'approvisionnement, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est derrière nous?
C'est pas normalisé, je dirais, moi.
C'est pas normalisé encore?
Pas encore. Mais les effets de baisse, les effets de base de cette baisse sont énormes, en fait.
Pourquoi c'est pas normalisé?
Parce que le fret, il est deux fois plus élevé qu'avant la Covid. Et que les prix du pétrole vont pas baisser au-dessus de 95, probablement.
J'aurais tendance à dire que c'est normalisé parce que vous avez plus l'éruption que l'on a eue sur la demande.
D'accord.
La demande, notamment en biens durables, qui avait été totalement explosive post-Covid. Et ça, c'est revenu à la niche. Et puis aussi, parmi les déterminants de l'inflation, ce qui me semble être important, c'est de regarder l'équilibre sur le marché du travail. Et en fait, vous vous rendez compte que la progression de l'offre de travail, en gros la population active, est en train de passer au-dessus de la progression de la demande de travail. La demande de travail, c'est le nombre d'emplois plus les postes ouverts au recrutement.
Ça aussi, c'est très important.
Et ça, c'est cette bascule-là qui me semble être tout à fait décisive pour apprécier ce qui se passe sur les salaires et donc sur les prix.
Et ça, c'est très intéressant parce que c'était encore un des grands goulets d'étranglement post-Covid. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, d'ailleurs c'est intéressant, vous qui êtes économiste, vous voyez ça, c'est presque surprenant de voir un ralentissement avec un chômage qui n'augmente pas, parce que pour l'instant, on est en train juste d'ajuster l'offre à la demande.
Exactement. Mais là, de mon point de vue, l'indicateur qui fait que la Fed ne bouge pas tout de suite, c'est que quand vous regardez le nombre d'emplois à pourvoir par rapport au nombre de chômeurs, on est encore quasiment à deux. Il y a deux postes à pourvoir par chômeur.
Et, il faut encore un vrai ralentissement.
C'est ça le marqueur, me semble-t-il, qui sera très important pour la Fed.
Puis surtout l'inflation cœur, parce que l'inflation cœur, elle est probablement en train de rester au-dessus de 2 jusqu'en 2024, à 3 en 2023. Donc en fait, pour vraiment pivoter, c'est pas évident en fait pour la Fed, parce qu'ils veulent pas pivoter trop tôt. ils veulent pivoter plutôt tard que tôt.
Denis nous dit le pivot de l'inflation, ça y est, aux États-Unis. Alors, on va parler de l'Europe, mais le pivot des banques centrales, ça y est ou pas? C'est-à-dire, pivot, on s'entend, c'est pas baisser les taux, ni arrêter de monter les taux, c'est monter les taux moins rapidement. Est-ce qu'on y est ou pas?
Ah, pour monter les taux moins rapidement, on y est. Mais on pour baisser les taux, on n'y est probablement pas encore en 2023. Plutôt en 2024, à mon
d'accord,
avis.
Mais on est déjà dans le pivot. Le pivot, c'est le ralentissement de la hausse des taux. On
après,
y est
voilà, on est toujours à la limite. Est-ce qu'ils vont faire 50 et 25 tout de suite?
D'accord.
Mais oui, on va augmenter les taux moins vite. Ça.
Et je me rappelle que vous nous aviez expliqué la décomposition. C'était très intéressant dans la zone euro. Ça m'a marqué. Zone euro, États-Unis. Est-ce qu'en Europe aussi, alors qu'on voit des chiffres qui sont catastrophiques en Grande-Bretagne et en Italie cette semaine, est-ce qu'on a passé le pivot de l'inflation aussi?
Probablement pas. Probablement qu'on va le passer en décembre. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une moindre déjà contribution de tout ce qui va venir des prix, évidemment, alimentaires, énergétiques et l'offre aussi. Tout ce qui était blocage sur les chaînes de valeur, on va passer probablement de 40%, que je citais la dernière fois, à probablement 10%. L'énergie de 50 à 25%. Donc clairement, on a des effets de base négatifs. Et je pense qu'il ne faut pas cette fois-ci louper la vague déflationniste. Parce qu'on a quelque part où louper la vague inflationniste, mais la déflation sur les biens risque de s'accentuer surtout en Europe, puisque la récession, elle sera plus forte qu'aux États-Unis. Et on le voit, en fait, on importe de la désinflation pour l'instant, voire un peu de déflation de la Chine, parce que les prix à la production sont déjà en train de baisser. Donc ça fait baisser l'inflation en zone euro. C'est vrai qu'on a encore des sources de volatilité. Qu'est-ce qui se passera avec les prix énergétiques en 2023, jusqu'à quand on aura les caps? Qu'est-ce qui se passera avec l'euro? Parce que ça aussi, 10% de dépréciation de l'euro, ça nous fait un point de plus d'inflation. Donc il y a quand même encore des sources. On peut encore être surpris sur l'inflation. Les services, pareil. Mais sur les biens, je suis presque en train de voir cette vague déflationniste.
En tout cas, j'ai frimé un dîner en reprenant votre décomposition de l'inflation. Ça a beaucoup impressionné.
Super.
J'ai pas dit que c'était vous, j'ai dit que c'était moi. Virginie?
Il y a une composante de l'inflation aux États-Unis qui est encore haute. Et qui est toujours en décalage. Faire attention, c'est les loyers. Et c'est très important, parce que c'est vraiment le... Et d'ailleurs, dans l'autre sens aussi, lorsque l'inflation a commencé à grimper, c'est pas le poste qui a grimpé le plus vite et le plus fort. Et c'est quand même important. Et sur le point de la Fed, sur le pivot des banquiers, enfin moi je parle de la Fed, je rappelle quand même que la Fed, elle a eu du mal déjà à augmenter les taux. C'est-à-dire qu'elle était en retard. Donc moi je pense que oui, elle va forcément pivoter, mais elle le fera avec du retard.
D'accord. Voilà. William, c'est important pour vous, évidemment, gérant la politique des banques centrales, la banque centrale.
Pas énormément.
Non.
Non, parce que
ça a fait quand même la fortune des gérants pendant 10 ans. S'il n'y avait pas eu le quantitative easing, cet argent qui coulait à flot, on n'aurait pas eu les performances sur les marchés qu'on a eues.
Non, alors moi j'estime que les actions c'est un actif réel, que globalement le chiffre d'affaires des sociétés cotées va suivre l'inflation, et donc ça n'a pas énormément d'importance.
La liquidité, ça a de l'importance.
Il y a de la liquidité. Alors moi, j'ai une vision très optimiste de la liquidité.
Allez-y.
Les banques centrales ont créé de la monnaie, en veux-tu, en voilà. Il y a de l'inflation, ce qui me paraît tout à fait normal. J'ai du mal à voir que les banques centrales sont restrictives.
Okay.
Les taux sont de 2,5% en France à 10 ans, l'inflation est de 6%.
Oui.
À une certaine période, on en a dit que c'était une politique expansionniste. Ouais. Il y a de la monnaie partout. La vélocité de la monnaie va s'accroître parce que les gens avaient des encaisses qu'ils n'utilisaient pas, ils vont les utiliser. Donc les banques centrales ont perdu la main. Donc moi, je parie sur l'inflation pendant quelques années.
Ah oui, d'accord. Très bien.
Non, mais les taux, je pense qu'il faut surveiller les taux réels.
Allez, on passe tout de suite, je tenais à en parler, hein. Je vous ai dit en démarrage, le chiffre de la semaine c'est 32 milliards. Oui, ce rêve bleu, hein, le joli rêve qui se transforme en cauchemar, ce beau vent de liberté qui soufflait sur la finance dite décentralisée, qui a dévoilé finalement ce qu'on attendait. Alors, je dirais les vieux cons comme nous, on l'a déjà vu l'histoire 50 fois, hein, cette finance dérégulée où certains ont fait tout et surtout n'importe quoi. Alors en janvier 2022, des grands noms, des grands fonds de la tech injectaient de l'argent dans une belle plateforme de crypto valorisée 32 milliards de dollars. Aujourd'hui, FTX est en faillite. Ça commence à faire tâche d'huile. Surtout, on commence à s'apercevoir que quand on dit non régulé, bah on rigole pas, c'est vraiment non régulé. Ça vous inspire quoi, Virginie Robert, vous qui êtes gérante, de regarder
depuis plus de 30 ans.
Comment ?
Depuis plus de 30 ans.
Alors,
donc on en a vu des chapitres.
Ouais.
On les a vus ces chapitres. Alors après, moi, sur les cryptos, j'ai pas d'opinion sur les cryptos.
Vous avez
même
peur de vous mouiller ? Vous avez peur
qu'on
traite de boomer ?
Non, je me mouille pas. C'est simplement, moi, je dis que je n'y touche pas parce que je suis un peu à avoir une buffette que je comprends pas, donc je fais pas. Après, je respecte parce qu'il y a une partie. Forcément innovante, technologique, enfin bon, on va pas refaire le film. Donc je critique personne là-dessus. Simplement, on sait bien, quand il y a une crise, les fraudes, elles sortent, parce que là, c'est assorti d'une fraude, apparemment.
C'est
cette crédibilité et cette façon de pouvoir penser qu'on peut faire de l'argent facilement. C'est ça qui est terrible, c'est que ça revient tout le temps sur les marchés.
Greed. La patte du gain, greed.
Et c'est ça. Et je vais plus loin, parce que encore.
Allez plus loin, Virginie.
C'est quand on voit dans ces plateformes, puisque là, il s'agit d'une plateforme de transactions, et qu'il y en a d'autres derrière, quand on voit les augmentations de capital, et qui est allé dans les augmentations de capital, qui a apporté des capitaux, on peut se poser la question, où sont les due deals, parce qu'il y a des grands noms, on va pas les citer, je veux
non,
pas
te. Parmi les plus grands noms d'attaque, et qui disent bon, écoutez, on a fait plein d'investissements, on s'est planté, c'est 200 millions, on met ça à zéro, c'est pas grave, arrêtez de nous emmerder.
Voilà,
quoi.
On va dire que je suis une vieille gérante. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir un peu d'expérience quelque part, ça aide aussi.
William, il faut réguler, non ?
Non, il faut pas réglementer. Non, mais on est étouffé par la réglementation, ça coûte une fortune.
Et là, 32 milliards, c'est pas mal d'argent qui sont envolés. Pchut.
Oui, mais
ça coûte une fortune aussi.
Il faut accepter.
1 million de clients qui sont bloqués avec 10 milliards qui sont bloqués, ça coûte une fortune.
Oui, mais bon, la finance décentralisée, elle doit être décentralisée, point final. Et c'est très mauvais de vouloir apporter une légitimité des réglementations sur. D'abord, on va avoir des problèmes juridiques intéressants pour savoir quelle est la nationalité d'une crypto-monnaie. Ça va être beau. Ça va faire la fortune des juristes, mais on peut estimer qu'il y a une place quelque part pour quelque chose de complètement décentralisé où les gens prennent leur risque et ils jouent. Voilà.
Donc ils jouent, c'est le casino, ils perdent, tant pis pour eux, et puis qu'ils ne viennent pas pleurer. Quoi.
Oui, et puis qu'ils disent, de toute façon, ils sont contents. Et ils disent, ça échappe aux banques centrales, à la réglementation, et c'était ça le but des crypto-monnaies. Donc il faut que. Enfin, pour moi, il faut qu'ils gardent leur nature.
Quelle est la vision de l'économiste sur le sujet de Denis Ferrand ? Parce que ça existe, quoi. Vous pouvez
bien
pas
l'ignorer. Évidemment que ça existe et d'une certaine manière, la Ponzi ne s'arrête pas aux frontières de la blockchain. Quoi. Mais la blockchain, ça n'est pas que du Ponzi. C'est ça auquel il faut faire attention, c'est qu'on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en fait, l'économiste, il va regarder qu'est-ce qu'on a déjà connu par le passé et comment on est le week-end. Je vous conseille un petit bouquin très très rapide. C'est le bouquin de Galbraith, une brève histoire de l'euphorie financière, où on voit que
c'est
tout le temps
référence.
La même chose, qui revient, c'est tout le temps la crédulité qui va se mettre, c'est la croyance.
Crédulité et à pas du gain.
Et à pas du gain. Et de l'escroquerie aussi.
Oui. Évidemment.
Non, mais il y a le package se met en place.
Mais comme dit William, on n'est même pas dans l'escroquerie. Parce qu'on est dans un environnement qui est totalement. Non, mais attendez. Pour que ce soit illégal, il faut qu'il y ait une loi.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déposez votre argent dans un compte, dans des sociétés offshore, sans régulation, bon, le gars prend l'argent et il s'en sert pour aller.
Quand c'est
spéculer.
L'argent des autres, c'est quand même pas.
Oui, mais en fait,
parce
c'est.
Parce que bon, quand c'est son argent, qu'on prend sa responsabilité, très bien. Mais quand c'est l'argent des autres.
Oui, mais justement, ce que dit William, que je peux comprendre, c'est de dire, bon, quand vous mettez votre argent sur une plateforme non régulée, vous savez que le gars, il peut faire ce qu'il a envie. Oui, bien sûr. Vision de l'économiste Anna Boata, ça vous inspire quoi quand même ?
C'est que le risque est de retour et que ceux qui ont pris trop de risques doivent payer maintenant. C'est vrai qu'on a eu toute cette vague des Robin Hood qui sont rentrés en bourse sans vraiment beaucoup de connaissances parce qu'il y avait beaucoup d'excès d'épargne. Il y en a encore. Mais aujourd'hui, on est dans un environnement de liquidité qui se réduit et du risque est de retour, de différenciation des classes d'actifs.
Vous dites ça, un retour en général de la notion de risque qu'on avait perdu parce qu'il y avait tellement de liquidité. Mmh. William nous dit, il y a toujours de la liquidité.
Il y en a toujours.
Il y en a toujours, mais il y en a moins quand même.
Et il y en aura de moins en moins, donc la volatilité va revenir de plus en plus.
C'est la bonne nouvelle.
C'est aussi parce qu'il n'y avait pas de taux. Il n'y avait pas de taux jusqu'à présent. Il y avait
There is no alternative.
Exactement. Donc, on remet du taux, forcément, le risque revient, l'appréciation du risque revient.
La bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle pour les défenseurs de ces marchés-là, c'est que heureusement pour nous, mais c'est pas systémique en fait. On s'aperçoit quand même qu'on a un Lehman des cryptos qui vient de tomber et on sait pas encore.
Ah bah on sait pas encore.
Ça pourrait être systémique.
Le diable se cache dans les détails parfois.
Ah oui, vous pensez que ça pourrait être systémique? Moi je crois pas.
Je sais pas. Tout le monde dit effectivement que c'est stricto sensu dans l'économie crypto. Moi, je ne sais pas, parce qu'on peut découvrir des choses, puisqu'il n'y a rien de... On ne sait pas où on est, donc... Aujourd'hui, je ne vais pas l'affirmer, qu'il n'y a pas de risque de contagion plus...
Je ne peux pas l'affirmer. Si elle veut pas que je l'affirme, je ne l'affirmerai pas. Par contre, on va se retrouver, ça, je peux l'affirmer, en deuxième partie de l'émission.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Qu'est-ce que c'est sympa de vous retrouver. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, vous savez, pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est quand même sympa. On est très content de retrouver les invités, content de refaire cette émission, content de parler de ce dont on a parlé en première partie. En deuxième partie de l'émission, on va parler évidemment questions incontournables. Où vont les marchés? Est-il temps? C'est la question d'argent de la semaine. Est-il temps de revenir sur les valeurs de croissance? Et bien, évidemment, on aura les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants. Et il y a des surprises, c'est marrant. Enfin. Et les actions à acheter ou vendre. Alors les marchés, on y va, on fonce. Bon, ça va mieux quand même. On s'est fait très très peur, hein. Rien n'est acquis. Hein. Mais bon, le CAC en baisse de 7-8%, le DAX 10%, le S&P 16%, le Nasdaq quand même, hein, en baisse de 28,5% malgré son rebond fulgurant de la semaine dernière. Bon, voilà, en gros, on est dans un environnement fortement en baisse. C'est-à-dire, si on débarquait aujourd'hui, on se dirait, ah ouais, quelle année pourrie. Oui, mais si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé il y a deux semaines encore, on regardait les chiffres. Alors, c'est un beau comeback des marchés. Mois d'octobre spectaculaire. Depuis quelques séances de hausse, hein, historique presque, hein. 7% sur le Nasdaq quand il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et toujours la même interrogation, hein, Virginie Robert. Est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce que ça y est, on tourne la page? Le pivot, on a le pivot de l'inflation, on va avoir le pivot des banques centrales, donc il est normal qu'on ait le pivot des marchés, ou comme beaucoup le disent encore, de gens très prudents, ils disent non, attendez, c'est juste un rebond technique dans une tendance de fond qui est baissière.
Alors, ça peut être un effectivement. Moi, j'en sais rien.
Si vous en savez rien, c'est pas moi qui vais répondre.
Parce que je vais vous dire, les séances à plus 7%, ça, c'est éventuellement des rachats de short.
Qu'est-ce que c'est beau?
Mais oui, parce que ça fait du bien, effectivement. Ouais, mais il y a beaucoup de shorts quand même. Vous regardez certaines sociétés, elles sont très shortées. Donc,
shortées, ça veut dire des vendeurs à découvert, c'est-à-dire des gens qui jouent le fait que leur valeur.
Donc là, ils se remettent neutres. Bon, donc là, mécaniquement. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour qu'il y ait vraiment un rebond dans les marchés, il faut qu'on switch, enfin qu'on passe d'un modèle de, on appréhende les marchés sur le momentum à un modèle d'analyse fondamentale. Il y a quelques signes, on voit bien que là, vous avez vu cette semaine, Walmart a bien publié, c'est bien passé, Target qui est dans le même secteur, ça s'est mal passé. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une espèce de différenciation. Mais il y a encore 15 jours, il y avait deux sociétés dans le secteur des softwares qui avaient publié et tout le secteur a été planté sur la semaine. Donc, pour le moment, on n'est pas encore sur un marché très stable. Mais je pense qu'on est plus proche en tous les cas. Comme je dis, les signes noirs, ils sont passés et peut-être qu'il y a des signes blancs qui vont commencer à revenir dans le ciel. Donc oui, il faut commencer.
Donc,
de toute façon,
pas,
on ne peut pas faire
pouvez pas
blanc,
affirmer,
noir,
comme Denis c'est... tout à l'heure, le pivot de l'inflation aux États-Unis, ça y est. Là, on n'a pas pivoté, mais vous dites...
Il faut y aller, oui.
On peut commencer à racheter.
Évidemment.
Évidemment, est-ce que je sais, moi?
Oui, évidemment. En particulier sur les valeurs de croissance, parce qu'il y a...
Ah, on va en parler tout à l'heure. Non, c'est le thème d'après.
Ok.
William, les marchés...
On n'en sait jamais rien.
Oui, ça, par principe. Okay,
par principe, donc c'est pour ça qu'on est toujours investi à 100%. Donc je conseille à tout le monde d'être investi à 100%.
Ouais, mais attendez.
Parce que généralement, marchés montent. Faut jamais oublier ça.
Ok, William, on est à 100%. Ah, ça fait très très mal. Excusez-moi l'expression, ça fait mal aux fesses, hein. Une année où, quand vous êtes investi à 100% sur le Nasdaq, vous perdez 35%. Oui.
Il faut jamais être investi sur le Nasdaq.
Ah, du tout ?
Non, mais il ne faut pas investir dans les valeurs de croissance.
Ouh là 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 là, on va en parler tout à l'heure. Ah là là, il va y avoir un très beau débat tout à l'heure. Bon, les marchés, ça va rebondir ou pas ?
Bah, les marchés, d'abord, ne pas oublier qu'il y a une guerre en Ukraine, que tous les États sont en train de se réarmer, que généralement, ça a toujours été bon pour l'économie. Donc, c'est pour ça que j'étais plutôt optimiste après le mois de février. Que par ailleurs, moi, je suis monétariste, donc je dis il y a énormément de monnaie partout. Donc, c'est un soutien pour les marchés, pour l'activité. Et c'est pour ça que, bon, la récession que tout le monde prévoit l'année prochaine, je ne suis pas complètement convaincu qu'elle ait lieu. Et de toute façon, elle est déjà dans
les... Vous voulez dire qu'ils se plantent, les deux, là, Anna et Denis ?
Non, mais bon...
Non, vous pouvez leur dire, hein, ils sont là, non, ils vous écoutent. Vision, hein. Vous pouvez leur parler. Hein.
Ma vision, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, c'est à partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a la récession en 2023,
c'est trop tard.
Il faut garder la petite possibilité qu'elle n'ait pas lieu.
Oui, mais surtout que... Attendez, là, on va revenir là-dessus, et puis je vais passer la parole deux secondes, même si on parle marché aux économistes, ils ont le droit d'en parler. C'est une récession qui est souhaitable. Parce que, comme on vient de le dire, elle va permettre de réduire les déséquilibres, elle va permettre d'atténuer l'inflation. Donc, non.
Bah, ça dépend d'où elle vient. Si la récession elle vient que du consommateur, parce que en fait, malgré les aides étatiques, il perd du pouvoir d'achat. Oui, il va peut-être consommer un peu moins, mais comme je disais, de toute façon, on a une vague déflationniste sur les biens qui vient. Les services, peut-être, ça va aider les services à se calmer, même si aujourd'hui, elles ne sont pas source d'inflation.
Ouais.
Donc, tout dépend du type de l'origine de récession. Après, effectivement, normalement, dans la durée...
Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais ça ne va pas vraiment régler le problème d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la moitié de l'inflation, elle est drivée par les prix de l'énergie. Okay. Donc, tant qu'on n'arrête pas la guerre et qu'on ne trouve pas des sources alternatives énergétiques, oui, on peut mettre des caps et ça va faire baisser automatiquement l'inflation, mais ça ne change pas sa structure. Donc, ce n'est pas la demande aujourd'hui. Donc, on casse pour rien la demande, finalement. Et même si c'est une
récession pas la demande,
qui tire l'inflation à la hausse.
Un peu quand même. Je sais que vous l'avez bien
aux États-Unis, mais pas en Europe.
Un peu en Europe aussi, quand même.
Non, mais la seule chose,
on a eu un effet rattrapage post-Covid, on avait besoin de consommer.
Mais même aux États-Unis, je veux dire, le taux d'épargne aujourd'hui, il est moitié moindre que ce qui était avant la Covid, parce que les gens essaient de. Nous, non, pas encore. Et je pense que la seule inconnue de cette récession, c'est le marché de travail, effectivement. Tant qu'il va rester tendu, les gens garderont encore un petit peu de souplesse dans les dépenses, mais on perd à peu près 1,5% de points de pouvoir d'achat. Oui, on aurait pu perdre le double, mais quand même, on perd du pouvoir d'achat.
William, les sociétés, je comprends ce que vous dites, mais les sociétés, enfin, nous, on est sur le terrain aussi, hein, elles commencent à souffrir quand même. Hein. C'est-à-dire les hausses des prix.
Jusqu'au troisième trimestre, les publications, on n'a pas vraiment de problème.
Jusqu'au deuxième trimestre, j'ai envie de dire. Le troisième trimestre, moi, depuis cet été, on sent un changement d'ambiance, notamment dans les PME, on sent qu'il y a des difficultés.
Sur la construction, oui.
Ouais, mais pas que.
La distribution aussi.
Le digital, le secteur, même le secteur des services, il y a quand même une pression. Bah vous qui parlez à des entrepreneurs, vous n'avez pas senti un changement d'ambiance depuis
Oui, tout à fait. Hein, c'est en train de tourner, mais avec peut-être quelque chose qui a changé dans chez les chefs d'entreprise, c'est-à-dire que je le vois par exemple sur la question sur la trésorerie. On a sorti une enquête avec BPI France sur où on interroge des PME. Donc, c'est pas forcément celle que vous allez regarder sur les marchés, mais vraiment des petites entreprises. Et en fait, ils nous disent que la trésorerie est en train de se dégrader, ça va moins bien. Mais ça, c'est de l'appréciation qualitative. Quand vous regardez quantitativement le montant de cash que vous avez encore dans les entreprises, il n'y a aucun problème. Le cash est encore là, est encore très abondant, quand vous le comparez à l'engagement de dette qu'ils ont. Et donc, il y en a encore sous le pied. Mais c'est peut-être un peu comme si les chefs d'entreprise étaient habitués à vivre avec un niveau de cash très élevé. Parce qu'ils ont devant eux, quand même,
une assez grande surplus en Europe. C'est leur épargne de précaution. Oui, c'est l'équivalent de notre épargne de précaution.
Et celle-ci, elle est quand même assez importante parce que combien vous allez payer votre électricité l'an prochain ? Personne ne sait le dire. Et donc, il y a une volonté d'avoir un niveau de cash beaucoup plus important que ce que l'on avait auparavant, et on peut donc avoir une perception de ce que la trésorerie se dégrade, parce qu'elle se dégrade par rapport au niveau désiré. C'est ça
et puis, on n'a pas eu encore le choc de taux d'intérêt. pour les entreprises en Europe, parce que les banques ont pas mal absorbé, et puis la BCE s'est mise à augmenter les taux en milieu d'année, donc ça va venir en première moitié 2023. Et ça risque de coûter plusieurs points de marge, surtout aux entreprises les plus endettées, et la France en fait partie, l'Italie et l'Espagne, donc clairement c'est un choc de profitabilité additionnel au choc énergétique.
Vous voulez rajouter quelque chose, William ?
Petit bémol là-dessus, c'est...
Vous faites que des bémols, vous.
Oui,
vous êtes l'homme du bémol, en fait.
Non, mais... Par rapport à l'historique, les sociétés françaises cotées, en fait, ce que je regarde, n'ont jamais été aussi peu endettées. C'est impressionnant. La création monétaire, ça a des effets. La monnaie, elle se trouve à la fin dans les bilans des boîtes.
Allez, on va rester là-dessus. On passe tout de suite à la question d'argent, mais j'ai l'impression que ça va devenir une battle. Est-ce qu'il faut revenir sur les valeurs de croissance? Alors, c'est elles qui ont alimenté la hausse folle des dernières années. Et puis, patatras, ça a été la cata, la chute, on l'a vu. Hein. Le Nasdaq, bon, quand même, un peu l'indice de valeur de croissance qui a chuté lourdement. Chute brutale de la BTTech. On atteint des écarts, je parle sous votre contrôle, vous les gérants, mais entre les valeurs de croissance et les actions dites value, je crois qu'on est sur des écarts qui sont quasiment historiques. Alors, on y va. Virginie Robert, oui. Est-ce qu'on doit
alors,
miser sur les valeurs de croissance?
Revenir aux fondamentaux, c'est quoi une valeur de croissance?
Allez-y, c'est quoi?
Je pose la question à William.
Alors, c'est facile, c'est une société qui se vend plus cher que la moyenne du marché.
D'accord. Alors, on est d'accord. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vais rétablir. Alors, par exemple, dans l'indice value du S&P 500, le troisième poste, c'est Procter & Gamble ou Johnson & Johnson. Okay. C'est considéré comme de la value.
Oui.
OK. Vous prenez l'indice S&P Growth, donc oui. Croissance. Oui. Dedans, vous allez retrouver Apple, Microsoft, Amazon, Google.
Okay.
Je vais prendre deux sociétés que je n'ai jamais citées dans l'émission.
Oui.
Donc, Google et Procter. Ok. Procter, hausse du chiffre d'affaires attendue pour les trois prochaines années. Allez, ça va se situer entre 0 à 3%. Tout dépendra de l'inflation, puisque ça suit l'inflation, effectivement. Google, croissance du chiffre d'affaires attendue, après avoir été revue à la baisse, puisque toutes ces sociétés ont communiqué, effectivement, sur leurs prévisions de 2023, ce qui n'est pas forcément fait en Europe, d'ailleurs. Croissance moyenne annuelle, 15%. Valorisation de Procter ou Johnson & Johnson, pour regarder, prenez Procter, 24 fois. Valorisation de Google, 19 fois. Donc Google, vous la mettez en valeur de croissance ou en valeur value?
Les deux sont en valeur de croissance. Voilà, pour moi, historiquement, le marché valorise les sociétés cotées 15 fois le résultat historique. Bon,
donc,
voilà.
D'accord. Donc vous, aujourd'hui, vous nous dites... Non, mais c'est intéressant. Ouais.
Ben oui, non, mais c'est
super,
ça.
Non, mais c'est super intéressant.
Non, mais Benjamin Graham disait...
Allez-y. Si vous achetez... Benjamin Graham, ouais. C'est-à-dire que là, on a passé un cap.
Mais
on
passé un cap.
Allez-y.
C'est pour ça que ça veut rien
allez-y.
Ça veut rien dire. Dire
non, mais ça veut dire, si vous achetez une société plus de 20 fois le résultat net, vous avez des chances raisonnables de perdre votre argent.
D'accord.
Pas sur le long terme. Alors ça dépend de l'horizon de temps, parce que vous prenez
la croissance. Ça dépend de la croissance
si
du chiffre d'affaires, William.
Ans, oui, mais sur 5 ans.
Mais personne n'en sait rien. Non, mais c'est ça un peu la différence de philosophie. C'est globalement, on estime. Enfin, pour moi, personne n'est capable de prévoir l'avenir. Il y a les chiromanciens pourraient le faire éventuellement, ou les tireuses de cartes.
Mais il y a des boîtes. Il y a des boîtes qui ont des taux de croissance structurels qui sont relativement faibles, et puis il y a des boîtes qui sont capables, parce qu'elles sont sur un marché booming, de faire 50% de croissance du chiffre d'affaires. Ça existe, ça.
Ça existe, oui. Mais d'abord, il faut le prévoir à l'avance. C'est ça la complication.
Et de toute façon, le sujet, Marc, la performance, c'est la création de valeur. C'est pas la valorisation d'un titre qui va faire que ça va donner de la performance ou pas. C'est la création de valeur de l'entreprise.
Et nous sommes tout à fait d'accord.
Voilà. Ah, ouais.
Alors, nous sommes tout à fait d'accord.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pas de valeur de croissance. Donc, ce que vous
dites.
Pas
de valeur de croissance. On va expliquer pourquoi.
Allez-y.
Bon, globalement, moi je suis value et globalement, on a le meilleur fonds sur les 10 dernières années. En période où tout le monde avait pensé que la croissance, ça marchait bien et que d'après les indices, ça marche très bien.
OK.
Aujourd'hui, vous pouvez acheter Jacques et Métal, on va parler dans deux secondes, à deux fois le résultat de l'année.
OK.
Bon, ce qui veut dire que vous êtes sûr qu'ils vont avoir des problèmes.
Oui.
Nous, on dit simplement, on n'en est pas sûr. Vous pouvez acheter ALD qui fait de la location de voitures sur longue période, à 5 fois le résultat net, le marché est à 15 fois.
Okay.
On n'est pas sûr qu'ils auront des problèmes, c'est tout.
Okay. Donc Stellantis, donc c'est un peu toujours la même musique, quoi. D'accord. Donc vous, attendez, c'est intéressant parce que en fait, vous avez posé la bonne question, j'aurais dû la poser, mais j'ai même pas pensé parce que je suis nul. C'est comment on définit une valeur de croissance. Et vous, vous dites, vous répondez, c'est une réponse qui est très intéressante, hein, qui est de dire une valeur de croissance, c'est une valeur qu'on paye plus de 15 fois.
Ouais, 15 fois, c'est très dur. 20 fois, ça c'est le minimum. La barre à 20 fois.
Bon, mais j'aime bien quand ça faillite un peu, c'est sympa ça. Allez, quel est le mot de la semaine pour vous, Anna?
Impasse pour moi.
Impasse.
Impasse sur plusieurs plans, hein, quand on regarde la guerre, mais aussi au plan budgétaire. C'est pour revenir un peu au sujet.
Quoi, aux États-Unis.
Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a vu quand même le budget, c'est pas vraiment très très facile. Et puis ça sera pas facile dans les années à venir. Et puis impasse politique aussi, hein, parce qu'on est dans. On n'en a pas trop parlé de ce que va devenir la relation États-Unis-Chine, États-Unis-Europe. On est dans plusieurs, et on est dans une impasse aussi en Europe, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord. Alors que bon, on était bien parti depuis le début de l'année à gérer la crise, à se coordonner pour la guerre, et puis.
Je trouve pas qu'on soit en impasse en Europe. Je trouve qu'on est en recentrage, c'est-à-dire que je trouve.
Sur nous-mêmes, oui.
Non, bravo. Mais je pense qu'il y a un renversement des alliances, en fait, au sein de l'Europe. C'est-à-dire qu'on va.
Et donc tu vois quelles alliances en ce moment?
Ben, moi, je vois une alliance, une Europe plutôt centrale et orientale, plutôt qu'une Europe. Bon, où il y avait cet axe Paris, Berlin, éventuellement l'Italie.
Tu n'es pas d'accord avec le fait que si tu n'as pas l'axe Paris-Berlin, tu n'as pas grand-chose?
Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'aujourd'hui, une Europe, malheureusement, c'est très malheureux pour la France, c'est malheureux pour l'Italie, c'est malheureux pour l'Espagne, mais je pense qu'une Europe bon, qui sera de fait un peu, comme toujours, hein, sous la signature allemande, tournée vers l'Europe centrale et vers l'Europe de l'Est, c'est une autre configuration.
Ouais.
Le mot, votre mot, William.
Alors pour moi, c'est l'imprévisibilité.
Ouais, on a bien compris.
C'est bon, on voit les élections américaines. Mais moi, je suis moins inquiet pour les États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas de discipline de parti. Hein.
Ouais.
Donc le fait que les Républicains aient une majorité très faible à la Chambre des représentants, ça veut dire qu'ils n'ont pas de majorité.
Ouais.
Mais tout est imprévisible, mais comme d'habitude.
Et donc, il faut s'attacher aux fondamentaux. C'est ça que vous nous dites. Comme tout est imprévisible.
Comme tout est imprévisible, il faut mieux regarder ce qui est en train de se passer.
Ce qui est proche du sol.
Voilà. C'est bon. Warren Buffett, j'ai toujours des citations, qui disait on voit mieux par le rétroviseur que par le pare-brise.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est complètement faux, parce qu'on voit vachement mieux avec un pare-brise qu'avec un rétroviseur. Virginia Robert.
C'est le dollar américain. Parce que les marchés ont remonté, effectivement, et le dollar s'est déprécié. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'inflation européenne, mais c'est une bonne nouvelle pour les sociétés, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les résultats, alors je parle des sociétés américaines, l'impact devise avait probablement pas été aussi bien calculé. Et il y a un véritable impact. Et je dis que c'est une bouffée d'oxygène parce que probablement que le dollar était trop haut et ça va redonner de l'oxygène. C'est peut-être un des signes blancs. On verra si ça perdure, hein, à voir, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'évolution d'une monnaie, évidemment. Mais c'est un point à surveiller. C'est un point à surveiller aussi pour des sociétés européennes qui ont bénéficié de la faiblesse de l'euro. À considérer aussi sur les mois à venir.
Parce que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler pour les gens qui ne suivent pas le marché des changes, c'est qu'on a eu une explosion du dollar. On a retrouvé des niveaux, par exemple, contre l'yen qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans.
Je ne peux pas prévoir, parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus dur, en tout cas faire des prévisions sur l'échange, je ne m'y risquerai pas.
Ouais.
C'est évident, mais là, de voir qu'il est repassé de 0,96 enfin, sur l'euro-dollar à 1,04, 1,03, 1,04.
Ouais, enfin, d'un autre côté, il vient de beaucoup plus haut.
Oui, mais c'est une bouffée d'oxygène, et notamment pour certaines valeurs américaines, certaines sociétés, et attention en contrepartie.
Oui.
Oui, et vous, à contrario, la performance du dollar, ça a été une aubaine un peu pour vos portefeuilles.
Oui, alors à court terme, ce n'est pas une bonne nouvelle, moi.
Oui, parce que vos investisseurs, je rappelle, ils sont en euros. Exactement.
Bien sûr. Mais moi, je préfère regarder le long terme.
Ok. Bah, vous regardez à travers le pare-brise.
Oui, voilà.
Mais les profits en euros ont baissé, on est d'accord. Parce que tout le monde regarde les profits en dollars
Ah oui, bien
pour
sûr.
Pour l'Europe.
évidemment. Ouais. Denis Ferrand.
Le mot, c'est pré-vente, parce que 90% des logements qui sont vendus en Chine sont pré-vendus, et c'est ça qui a apporté en fait la liquidité aux promoteurs immobiliers chinois. Sauf que quand vous avez le Covid, bah, pré-vendre des logements, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, vous vous retrouvez avec des ménages qui ont acheté leur logement il y a de cela 6-7 ans, logements qui ne sont toujours pas construits, qui ne sont pas vendus. Ça a déclenché un mouvement de boycott de remboursement des emprunts hypothécaires en Chine, et ça a commencé à avoir des effets de capillarité sur la situation du système bancaire en Chine. Les Chinois ont annoncé cette semaine un plan pour soutenir le marché immobilier, pour protéger ceux qui auront aussi préacheté. Et ce faisant, on a vu une détente se faire sur les spreads, sur les CDS des titres bancaires chinois.
On n'a pas beaucoup parlé de la Chine, mais on devra en parler parce que la Chine est à contre-cycle. Hein, donc, ça peut être une bonne nouvelle qu'elle recommence à démarrer à un moment où le reste du monde va être un peu en récession. Et en plus, c'est une bonne nouvelle qu'elle démarre à un moment où l'inflation commence un peu à ralentir. Parce que sinon, on aurait eu vraiment le pire des deux mondes. Allez, on passe au top 3. On y est presque. Hein. On y est presque. J'ai presque un gérant. C'est pas arrivé depuis des mois. J'ai presque un gérant qui est positif. Pierre Chang est à moins 0,5% seulement. Waouh. Mais moins 0,5% cette année, c'est champagne. Hein. Frédéric Rosier, moins 3,8%. Et notre ami Romain Burnand, moins 4,2%. On est un peu à la bourre sur les portefeuilles, donc on va pas reprendre votre portefeuille. Vous allez me dire que vous vendez rien, j'imagine, ou alors vous vendez une de vos
valeurs.
J'avais
communiqué, donc.
Alors, qu'est-ce que vous vendez ?
On a vendu Eiko.
Allez-y, on le dit maintenant.
Eiko.
Okay.
Les services dans l'aéronautisme, enfin dans les pièces pour l'aéronautisme.
Et on achète. Qu'est-ce qui fait que vous le vendiez ?
Parce que ça a bien monté, et je pense que dans un marché, vous voyez, c'est là ma petite touche positive, c'est que je pense qu'il faut commencer à anticiper effectivement un retour d'appréciation de certaines valeurs, et je pense qu'il y a mieux à faire. En fait, je suis dans la...
Vous êtes dans l'arbitrage.
L'arbitrage, d'accord. Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ?
Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ? Ah ben voilà, bon, nous on achète du Salesforce. Alors, même si, attention, à court terme, il y a quand même un risque. Parce que
rappelez-nous ce qu'ils font d'abord.
Alors, c'est le leader mondial, parce que c'est vraiment le leader. Ils ont 20% de part de marché dans les services de gestion relations clients, ce qu'on appelle le CRM, Client Relationship Manager, OK ? Management. Et donc, il faut aussi d'autres choses. Mais c'est vraiment, ils ont 20% de part de marché sur ce segment. C'est une très forte culture d'entreprise. Ils ont créé un écosystème, ils ont les produits intégrés,
ils sont partout,
ils ont adressé, alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait Salesforce, ils ont adressé l'international, les PME, et d'ailleurs ils ont souffert de l'appréciation du dollar, et donc ça rejoint ce que je disais avant, mais surtout là ils vont être en récolte de leurs investissements, c'est-à-dire que nous on joue le retour à la progression des marges sur 3-4 ans. Hein. Et il y a un chiffre d'affaires en moyenne annuelle qui s'établit à 17% pour les années à venir. Donc ça, ça nous va bien. Elle a été évidemment très pénalisée dans le marché. Donc on commence à revenir.
Depuis le début de
l'année ? Je ne sais pas, on doit être à moins 50.
C'est les soldes.
Je ne sais pas le chiffre. Parce
c'est les soldes,
avait
c'est Black
avant.
Friday.
Elle avait fait une acquisition, souvenez-vous, Slack qui avait été décrié.
Black Friday.
Donc voilà. Donc
allez, pour faire plaisir à William.
À court terme, quoi, attention, parce que fin novembre,
quoi, le ratio
public, il peut y avoir une déception.
D'accord, donc on se précipite. Allez, pour faire plaisir.
Sur 2023, je donne un ratio sur 2023, on est à 32, donc c'est beaucoup
32
trop cher.
Mais c'est magnifique. On est dans la valeur de croissance.
2022.
Non, parce que 2022, on est à 50 fois, non ?
Ouais, on est plus que ça.
Allez, William.
Ça ne veut rien dire un peu pour une société comme ça.
Ça ne veut rien dire, William, un peu pour une
société. Mais je suis convaincu qu'effectivement, la plupart des gens raisonnent comme ça. Mais
allez, William.
Donc moi, je présente une société qui...
Alors vous n'avez pas de portefeuille, puisque vous n'êtes pas un nouveau venu, puisque vous étiez venu dans l'émission il y a quelques années, mais vous n'êtes pas...
Tout le monde m'avait oublié, oui.
Et jamais. Et donc là, on démarre un portefeuille. Vous avez même le droit de donner plusieurs valeurs quand on démarre un portefeuille.
Alors, j'en donne deux.
Allez-y.
Jacques et Métal. Donc, Jacques et Métal...
Rappelez-nous ce qu'ils font.
Distribue de l'acier en Europe et un peu aux États-Unis. C'est une société qui a fait 160 millions de résultats au premier semestre, qui capitalise 340 millions d'euros. Donc, un price earning sur l'année d'à peu près 2. Donc, en bref, tout le monde anticipe la catastrophe et on est assez d'accord. Enfin, c'est pas la catastrophe, c'est le résultat normal, c'est 60 millions d'euros. Bon, ils vont faire 170 cette année. Et comme il y a un mauvais news flow, personne n'en veut.
D'accord, mais c'est là que vous arrivez.
Et c'est là qu'on arrive, parce que sur un bénéfice normal, c'est 7 fois, Le prix normal d'une boîte cotée, c'est 15 fois. Pourquoi 7 fois? On n'en sait rien.
D'accord. Ça, c'est pour la première, Jacques et Métal. La deuxième.
Après, la deuxième, c'est ALD. C'est un peu la même histoire. Ils louent des voitures, des flottes de voitures aux entreprises.
C'est surprenant, ça, parce que c'était assez une introduction qui avait assez bien marché, hein, en démarrage.
Non, enfin, peut-être non. Au démarrage, mais depuis, c'est la catastrophe.
Oui, oui.
C'était introduit à 15, ça vaut 10, 11 aujourd'hui. Les résultats sont hyper bons. Okay. Donc, effectivement.
Il n'y a pas un phénomène de taux, quand même?
Non, en fait, les taux. Enfin, leurs clients, soit achèteront la voiture et emprunteront à la banque, soit ils iront voir ALD et ils auront un taux plus élevé, donc ça, c'est pas grave. Donc, ALD, des résultats exceptionnels parce que les voitures d'occasion se vendent comme des petits pains.
D'accord.
Donc, ils gagnent 3 000 euros par voiture, normalement, c'est 500. Donc, price earning de 5. Nous sommes assez d'accord avec le marché, ça peut être 10 fois en moyenne, mais c'est gratuit.
D'accord. Et juste une question, une réponse ultra rapide parce qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de sociétés qui sont à des PE, des price earnings.
À ce niveau-là, non.
Non, mais en dessous de 10.
Y en dessous de 10, on a un portefeuille qui est à 8 en moyenne.
Ah oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la battle, c'était excellent. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était un plaisir, Anna.
Merci.
Allez, on vous souhaite all the best. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer, je viens de l'apprendre, qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas, faites péter les records. Vous pouvez nous écouter, nous voir ou nous revoir en replay, podcast sur RMC, BFM Play et surtout sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.